C'était le matin et l'or d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche relevant ses filets invitait au petit déjeuner. Et son appel transmis dans les airs attira mille goélands virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait ainsi. Mais seul, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingstone le goéland s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses pattes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Il se sentait ralentir jusqu'à ce que sur sa tête, le vent ne fût plus qu'un léger souffle et que là en bas, sous lui, s'immobilise l'océan. Les yeux à demi fermés, retenant sa respiration, se concentrant furieusement, il s'efforçait d'incurver à ses ailes un peu plus encore. Puis la perte de vitesse ébouriffait ses plumes. Il décrochait et tombait. Les goélands, nous le savons tous, n'ont jamais la moindre défaillance en vol. Ils ne connaissent pas la perte de vitesse. Tomber des airs, toute sustentation enfuie, c'est pour eux la honte, c'est pour eux le déshonneur. Mais Jonathan Livingstone, le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait en frémissant, ralentissant, ralentissant pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingstone, le goéland, n'était certes pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre en fait de techniques de vol que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage pour quitter leur pâture, puis de revenir s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler, mais manger qui importe. Pour ce goéland-là, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Cette façon d'envisager les choses, il ne devait pas tarder à s'en apercevoir à ses dépens, n'est pas la bonne pour être populaire parmi les autres oiseaux du clan. Ses parents eux-mêmes étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières, solitaire à effectuer des centaines de planées à basse altitude, à expérimenter toujours. Il se demandait pourquoi, par exemple, lorsqu'il survolait l'eau à une hauteur de la moitié de son envergure, il pouvait demeurer en l'air plus longtemps, à moindre effort. Ses planées ne se terminaient pas par l'habituel éclaboussement que provoque sur la mer l'impact des pattes abaissées, mais par un long sillage plat lorsqu'il touchait la surface pâte escamotée. Quand il se mit au milieu de la plage à atterrir sur le ventre, puis à mesurer à pas compter la longueur de sa glissade sur le sable, ses parents furent vraiment plongés dans une véritable consternation. « Mais John !» lui demanda sa mère. « Pourquoi, mais pourquoi t'est-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte, aux pélicans et aux albatros ? Pourquoi ne manges-tu pas ? Fiston, tu n'as plus que la plume et les os. Maman, cela m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. »
« Voyons, Jonathan !»
lui dit non sans bienveillance son père.
« L'hiver n'est pas loin. Les bateaux vont se faire rares et les poissons de surface gagner les profondeurs. Si étudier est pour toi un tel besoin, alors étudie tout ce qui concerne notre nourriture et les façons de se la procurer. Ces questions d'aérodynamique, c'est très beau, mais nous ne vivons pas de vol plané.
N'oublie jamais que la seule raison du vol, c'est de trouver à manger. »
Jonathan obéissant acquiesça.